Donc, bonsoir à nouveau. Je représente les intervenants qui sont là ce soir. Donc, Sébastien Saindeux, qui, comme vous l'avez vu, a réalisé ce film photographique. Fabienne Pavia, des éditions Le Bec en l'air. Et Jean-Luc Bertini, photographe lui-même. Alors, pour commencer, dans un premier temps, dans la continuité de ce qu'on vient de voir, est-ce que, Sébastien Saindeux, vous pouvez nous dire un peu quelle est la nature de cet objet qu'on a vu, qui est donc, ce que vous appelez donc, un film photographique et qui fait l'objet, comme on le voit à la fin, d'une réalisation, donc qui est un objet à la fois entièrement pensé, construit et réalisé.
Bonsoir. Vous l'aurez compris, c'est un travail un peu expérimental qui a débuté en février 2016, avec la ville de Mérignac, qui nous a accompagnés pendant 3 ans sur une aide à la création pour travailler autour de la projection. Entre le premier module qu'on a présenté donc, en 2016, qui durait de mémoire 18 minutes, et celui que vous venez de voir qui dure une heure, il y a eu 10 voyages immobiles. Voilà, donc c'est important de préciser que c'est... un objet expérimental et qui va évoluer aussi dans le temps. J'espère que le dispositif pourra continuer et que cette expérimentation pourra s'enrichir, s'améliorer, être différente au fil du temps. Il y a une tentative de narration photographique de notre part qui répond aussi à un besoin d'explorer des nouveaux champs photographiques. Le collectif Les Associés a initié ce dispositif. Bon, on a toujours eu à cœur dès le départ d'inviter d'autres photographes de façon à ce qu'on crée un dialogue photographique. Raison pour laquelle on ne crédite pas volontairement les gens au départ. On ne souhaite pas que les séries soient présentées, mais qu'elles soient en regard, en dialogue les unes avec les autres, à travers une thématique. En 2016, la thématique s'appelait « À l'échelle d'une métropole ». En 2017, « Une certaine idée de la France ». Sur une année électorale, c'était assez sympathique. Et en 2018, d'une rive à l'autre, voilà.
Par rapport aux différentes formes possibles, justement, d'exposition, de présentation de la photographie, comme vous l'avez évoqué à l'instant, le choix de cette forme-là, c'était effectivement le choix d'une narration et on peut dire même d'une forme d'écriture.
Ouais, d'écriture et puis aussi de... Les photographes aiment bien aussi les mots. Moi, j'ai fait un travail sur les détroits et il y avait une volonté de ma part aussi de rendre hommage à des écrivains qui m'ont accompagné dans ces voyages-là. Donc c'était ça le fil aussi, d'où aussi cette rencontre autour de la photographie et de la littérature, parce que je suis sincèrement, à titre personnel, convaincu que les mots sont importants pour les photographes et pour les images, et peut-être inversement, mais ça, bon... Voilà.
On va le voir. Alors, Jean-Luc Bertini, votre travail est présent dans ce film. Je crois que c'est la première fois que vous voyez le film dans son intégralité. Vous l'avez découvert ce soir. La partie de votre travail qui est présent, c'est justement la partie liée à votre voyage autour des écrivains américains, dont on retrouve qui a donné lieu à un album aux éditions Albin Michel. Comment est-ce que vous recevez déjà ce travail-là, cette proposition de film photographique? Qu'est-ce que ça fait de voir son propre travail de photographe mêlé comme ça à celui d'autres photographes dont les thématiques ou les lieux ou les modes même de photographie peuvent vous sembler très différents? Et est-ce que vous y voyez, vous aussi, une forme de narration, quelque chose qui relèverait d'une approche, si l'on veut, littéraire de la photographie?
Bonsoir. Bonsoir. Ça m'appartient plus. C'est-à-dire que c'est un dispositif... qui est choisi, qui est pensé. Et du coup, moi, c'est très, très différent du livre. Il y a peu d'images qui sont montrées, qui sont plus à la fois recadrées, zoomées, etc. Donc, je découvre ça avec beaucoup de plaisir. Et en même temps, un peu comme quelqu'un qui aurait écrit un livre et qui serait adapté, je prends cet exemple-là, peut-être parce que ça me parle plus, enfin, ça ne m'appartient pas. En tout cas, non pas de juger, j'ai mon idée bien sûr, mais d'aller plus loin dans l'explication, puisqu'en plus c'est un travail qui est mêlé à d'autres travaux. Donc c'est difficile d'avoir une opinion tout à fait figée sur ce qui se passe. Moi j'ai apprécié le film, etc. Voilà, je ne sais pas quoi dire de plus loin.
Mais c'est pas grave, ça va vous venir.
Oh, oui.
Alors, Fabienne Pavia, donc vous êtes éditrice, vous êtes la fondatrice et éditrice de la maison Le Bec en l'air depuis 1999.
Bravo.
parce que j'ai vu deux dates circuler, donc voilà. Et pour le coup, vous, votre vie, votre métier depuis une vingtaine d'années, ça consiste justement à fabriquer des objets dans lesquels, qui sont des livres photographiques, on y reviendra après, dans lesquels la littérature a une part absolument considérable. Jusqu'à présent, je ne crois pas que vous ayez produit de films. Ça viendra peut-être. Vous-même, comment vous recevez un tel objet et qui voyez-vous ?
Je trouve ça très bien d'ailleurs, pour commencer d'abord. Bravo Sébastien, je reconnais bien certaines de tes obsessions. J'ai eu beaucoup de plaisir à titre personnel, parce qu'il y a notamment des séries que j'ai publiées, celle des Détroits, qui était un livre qu'on avait donc publié ensemble, où il y avait justement déjà un écrivain qui était intégré au projet, en l'occurrence Arnaud Bertina. Et puis l'autre livre, c'était la série d'Ulysse qu'on a pu voir, qui est une relecture contemporaine d'Ulysse, avec la notion de frontière, la notion de guerre, etc. Là, on n'en a vu qu'un extrait. Donc ce qui me frappait en regardant les images, c'est à quel point il y a une question qui m'obsède depuis 20 ans, c'est cette question de ce qu'on appelle le vide narratif, c'est-à-dire comment, quand on regarde deux images, chacun peut projeter entre ces deux images, peut créer des liens entre ces deux images et investit le vide qu'il peut y avoir. Et là, en l'occurrence, ce que je trouvais bien, c'était que le vide soit investi par de la littérature et des extraits de textes, en jouant subtilement, parce que pour moi, tout l'enjeu, il est là, en fait. Plaquer des mots sur des images qui ne seraient qu'une simple illustration, on peut le faire, bien sûr, il y a eu certainement des tentatives réussies, mais je dirais qu'on reste un peu un premier degré. Et là, ce que j'aimais bien, c'était le décalage qui se jouait entre parfois certains mots qui pouvaient résonner, après chacun y projette sa propre expérience, son imaginaire, ses lectures, mais qui pouvaient résonner en décalage. Je pense par exemple à l'allusion sur les sirènes, où on avait vu cette très belle photo de cette femme nue à moitié immergée, et puis je ne sais pas si vous vous souvenez, il a été question de sirènes quelques instants après, voilà. Et c'est toute cette subtile mobilité que je trouve intéressante. Et puis c'est une très belle manière de, et c'est ce qui va nous occuper je crois là ce soir, de montrer que le texte est image comme l'image est texte. Et ça aussi c'est quelque chose qui fonde beaucoup des publications du Bec en l'air. Comment à un moment donné le texte peut faire image, et comment la photographie elle-même est forcément porteuse d'un message, d'un sens et une fois de plus d'un imaginaire.
Pour le coup, c'est aussi la force des lectures qui sont faites. C'est-à-dire que le fait que ce soit lu, et par ailleurs très bien lu, ça produit effectivement une image aussi. Par rapport à ce que vous venez d'évoquer sur ce jeu de l'écart de deux images qui côte à côte, dans lequel le spectateur vient s'insérer, pour le coup, ça m'évoque, Jean-Luc Bertini, votre propre travail, dans lequel, effectivement, dans votre album sur les écrivains, sont systématiquement mis dans un côte à côte à la fois la figure de l'écrivain et un paysage que vous avez évidemment, vous, à la fois photographié les deux et fait le choix de rapprocher, et votre, dans une perspective qui, j'imagine, n'est, comme vient de le dire Fabienne, pas la logique de l'illustration, mais justement, quelle est la logique qui guide pour vous cette mise en relation quand on photographie un écrivain et quand on met un paysage à côté, c'est l'évocation, ou c'est au contraire cette idée que c'est le premier pas vers une narration? Je peux faire des questions plus courtes, si
vous n'avez pas de... J'ai jamais été très fort à l'oral, moi. J'ai presque envie de vous demander de répéter la question, mais c'est sûr qu'il y a une double narration dans ce livre qui est à la fois celle de la rencontre, c'est-à-dire que c'est un livre qu'on a fait à deux, vous savez peut-être. Donc il y a quelqu'un qui rencontre un écrivain avec un crayon, et l'autre qui le rencontre avec un appareil photo. Et alors tout est à la fois soudain et brutal, parce qu'il faut, en tout cas pour moi, c'est-à-dire qu'il faut vite trouver un endroit où le photographier, comment le photographier, et donc il n'y a pas de dispositif qui peut être pensé au départ. Donc ça va très vite, et je pense que je ne sais pas si je réponds très bien à votre question, hein. Tant pis. Et les choses, coup, je parle trop fort. Les choses s'appuient, se répondent d'une façon ou d'une autre. Et probablement qu'on ne dit pas la même chose et qu'on ne peut pas dire la même chose. C'est-à-dire qu'Alexandre, qui a écrit le livre, et moi qui fais les photos, on ne peut pas dire la même chose parce, parce que d'abord, c'est deux outils différents. C'est pour ça que les narrations, si on peut dire, se répondent et s'appuient et s'enrichissent, évidemment. Mais on ne peut pas dire la même chose. Il a la réflexion pour lui et moi, je ne l'ai pas. J'ai la brutalité du moment et la soudaineté et la spontanéité. On en a souvent parlé, d'ailleurs. Mon travail était terminé quand je rentrais dans la voiture ensuite. Et lui, il avait encore tout un imaginaire qu'il pouvait développer. Voilà, c'est la grande différence, mais il doit y en avoir évidemment d'autres.
Mais en même temps, comment dire, vous n'êtes pas du tout, on le sait, qu'un photographe est exécutant par rapport à une commande, dans la mesure où vous êtes aussi un grand lecteur et un lecteur de cette littérature que vous photographiez. C'est-à-dire que si vous êtes embarqué dans ce voyage où on voudrait tous être, qui est aller photographier les grands écrivains américains contemporains, c'est aussi parce que vous êtes un grand lecteur de cette littérature-là et que quand vous arrivez face à l'écrivain et face au paysage, vous y arrivez. Vos travail, vous l'avez fait avant, c'est-à-dire c'est le travail de lecture et comment cette lecture, ce rapport à la littérature va déterminer, si l'on peut dire, le choix que vous allez faire de la façon dont vous allez photographier l'auteur.
Non, vous avez raison. J'arrive avec un imaginaire chargé et riche de toutes ces lectures. Mais bizarrement, je crois quand même que quand je photographie, tout ça n'existe pas. Je crois qu'en fait, des photographes sans doute me comprendraient. Ça va trop vite. Et je pourrais donner des tas de petites anecdotes qui serviraient sans doute à étayer mon propos. Ça ne peut pas servir parce que, prenons Jim Harrison, il se tient en face de moi, j'ai beau avoir lu tous ses livres ou presque, c'est une littérature qui reste qui va m'envelopper, qui va, encore une fois, dont je suis chargé, comme plein d'éclairs, etc. Mais je suis presque démuni en face de lui, où c'est un combat qui va s'opérer, qui va être mené entre lui, enfin, qui va avoir lieu. Mais en quoi Dalva... C'est une question à laquelle j'ai souvent pensé. Et j'ai beau y penser tout le temps, et je ne vois pas comment sa lecture peut m'aider ou a pu m'aider à le photographier. Je crois qu'il faudrait me coucher sur un lit de psychanalyste, peut-être pour que je sois... Je le dis sans chercher à me détourner de la question, hein. Je ne vois pas comment je peux répondre à la question. Ça serait trop facile, trop commode, en fait, de dire oui, j'ai lu Dalva, j'ai lu les autres, et du coup, je sais exactement où le mener. Évidemment, il y a un subconscient qui travaille, et je vais peut-être l'amener, peut-être plus là ou ici ou là, peut-être grâce ou à cause de ces lectures-là. Mais je crois, hélas, que ça serait trop littéraire et que, au fond. Je suis sauvage quand je photographie et ça dure pas longtemps, et heureusement. Et tout ça, l'intellect, il ne joue pas. C'est plutôt la lumière, comment elle se pose sur son visage. Au fond, je photographierais Jim Harrison comme je photographierais Monsieur Tout le Monde. Je cherche une image qui va répondre à mes obsessions à moi et pas qui est Jim Harrison.
Alors justement, Fabienne, vous qui passez votre temps à mettre en scène ces rapprochements entre des écrivains et des photographes, est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment vous faites ce travail-là, au sens où comment est-ce que vous choisissez, est-ce que c'est vous qui rapprochez la plupart du temps l'un et l'autre, c'est-à-dire le photographe là, ou la photographe ou et l'auteur, est-ce que ce sont des choses qui vous viennent par des projets de cette façon-là, sachant que vous avez quand même une collection qui est entièrement dévolu à ce rapport-là entre un écrivain et vous avez une galerie, une bibliothèque au sein de votre maison qui comporte tous les grands noms de la littérature contemporaine, de Maëlys de Carangal à Joyce Ormond et tant d'autres. Ou est-ce que, au contraire, c'est vous qui vous dites tiens, ce serait formidable de rapprocher deux imaginaires dans un même objet ?
Est-ce que les mariages sont des mariages d'amour, de raison, des mariages arrangés? Alors parfois ils sont arrangés, mais ils ne sont jamais forcés, en tout cas on essaie. Dans cette collection qui s'appelle Collatéral, où Collatéral, c'était le nom de la collection avait été choisi, c'était un terme médical, je crois que c'est des vaisseaux qui chemineraient parallèlement, en tout cas à côté de l'artère principale. Et c'était un peu ça, toujours cette idée de cheminement parallèle. Et donc dans Collatéral, parfois, et c'est sans doute ceux qui fonctionnent le mieux, quand le duo est constitué, ou en tout cas qu'il y a un désir commun et que le photographe et l'écrivain se connaissent. Par exemple, pour l'évoquer avant cette rencontre, il y en a un que j'aime, enfin je les aime bien tous, les titres de cette collection, mais texte d'Alice Zénitaire, qu'on connaît bien maintenant depuis le succès l'an dernier de L'Art de perdre. Mais Alice a travaillé avec un photographe qui s'appelle Raphaël Nil, qui se met en scène dans des décors comme ça, très un peu new age comme ça. C'est souvent en Islande, au milieu de volcans, donc il faut imaginer ce personnage qui se grime, qui se déguise, qui se masque. Et donc il y avait toute cette série comme ça, très un peu froide, d'hommage à la nature. Et par exemple, elle a sa fiction est bâtie sur une jeune femme qui fait des ménages dans une grande tour de bureau, qui se heurte à l'anonymat du monde du travail. Et en fait, elle est prise à un moment donné de maux de tête très très violents, et elle va découvrir qu'elle est électrosensible. Donc, pour être très concret, comment ça se passe dans ces cas-là? Donc, on avait décidé avec Alice qu'il y ait d'abord toute cette partie de description de la vie de bureau, voilà, très, très beau morceau littéraire. Et à un moment donné, la première photo, qui est ce personnage énigmatique en rouge que je vous ai décrite, arrive en fait au moment où elle est prise d'un violent mot de tête. Et peu à peu, en fait, finalement, elle a des visions, et les visions, en fait, vont être les images de ce personnage. Et à ce moment-là, la photographie se substitue au texte, et on a un tunnel de photographie, et voilà. Et ça c'est hyper intéressant, parce que c'est presque du tissage en fait entre le texte et l'image. Donc à chaque fois l'histoire se réinvente. Il nous arrive aussi d'avoir de choisir un auteur. Donc par exemple, récemment on vient de publier le travail d'un photographe indien, jeune photographe indien très très brillant, qui s'appelle Arko Datto, et qui a travaillé sur le phénomène des pique-niques. En fait, la classe moyenne émergente indienne, ça donne à la passion du pique-nique, mais alors c'est pas le pique-nique comme nous on pourrait le faire, c'est des pique-niques absolument géants avec des sonos monstrueuses ou des cars entiers, des bus entiers d'une famille ou d'un groupe d'amis qui travaillent ensemble s'en vont faire des pique-niques, laissent les paysages absolument dévastés. Enfin, et à travers cette histoire donc tout est là, de l'Inde contemporaine, les rapports de caste, la violence entre les sexes, la musique, la pollution, parce que les vraiment, je vous disais, il y a des photos incroyables qui montrent comment les restes, les gens sont abandonnés au même titre que les assiettes et les couverts. Et donc voilà, là par exemple, l'idée de, on l'a défini ensemble. Moi j'avais lu le texte d'un auteur indien qui a écrit un livre qui va sortir bientôt chez Gallimard sur Calcutta. Donc on s'est dit, bah pourquoi pas le contacter. Il a accepté d'écrire le texte, et il a vraiment écrit un texte qui parle pas des phénomènes de pique-nique, mais qui parle de ce qui est devenu la photographie aujourd'hui en Inde, notamment à travers les selfies comme partout au monde, mais comment en Inde très vite ça a basculé du photographe indien de rue qu'on a tous en tête, les studios photo indiens, à aujourd'hui tout le monde qui fait de la photographie. Et donc là encore, un texte d'écrivain vient non pas illustrer ce qui est photographié, mais devient un outil de questionnement de la photographie. Et je crois que c'est ça qui m'intéresse. Et donc, pour répondre à votre question, finalement les cas, on les invente à chaque fois en fonction du désir de chacun, quoi.
On les invente, mais on peut aussi imaginer qu'ils viennent s'insérer dans une histoire, puisque cette histoire de rapport entre la littérature et la photographie, elle est finalement assez ancienne. Elle remonte à la fin du 19e, et elle rejoint ce que vous évoquiez dans le cas d'Alice Zénitaire sur la question du tissage. C'est-à-dire qu'on soit chez Rodenbach avec Bruges la Morte, qu'on soit chez Hadji et Evans avec Louons maintenant les grands hommes, ou d'autres exemples, il y a toute une histoire de ce rapport-là.
Oui. Alors bizarrement, le champ critique ne s'est pas intéressé à cette question, que ce soit d'ailleurs en France ou dans les pays anglo-saxons, avant les années 80. Un jour, je m'étais amusée comme ça à chercher les textes qui avaient pu commenter ça. Alors il y avait une néanmoins eu une enquête dans la revue Le Mercure de France en 1898. Il y avait eu une enquête pour savoir si donc c'était la photographie était en train de se répandre à travers les revues notamment, et une enquête pour savoir si le roman devait devenir un roman illustré. Et donc dans ceux qui avaient répondu à l'enquête, il y avait Zola qui disait non, surtout pas. Mallarmé qui lui était pour. Pierre Louis qui disait que ça marcherait une fois sur 1000. Et c'est d'ailleurs étonnant que Zola soit contre, parce que finalement Zola fait partie des premiers écrivains qu'on photographiait avec Lewis Carroll aussi. Enfin, dès le 19e siècle, cette question-là, elle est à l'œuvre. Et il y a aussi ensuite les photographes qui, eux, ont écrit. Donc c'est vrai que cette question de la littérature et de la photo, elle est pas simple, parce qu'on peut la prendre vraiment de plein de manières différentes, quoi. On le voit avec Jean-Luc. Donc, je sais pas, par exemple, on pourrait citer le livre qu'on a publié ensemble, où peut-être tu peux en dire deux mots, où du coup tu es parti accompagné par Olivier Rollin, le romancier, dans les îles Solovki. Les îles Solovki, ce sont les îles où le goulag, le terrible goulag était basé. Peut-être tu peux dire deux mots de la manière dont vous avez justement travaillé ensemble.
Oui. En fait, je connaissais un petit peu Olivier Rollin, qui j'avais demandé comment ça allait, et il m'avait parlé simplement de ce voyage qui se profilait, donc dans les îles Solovki en Russie. Et j'avais pu me greffer à ce voyage, et j'avais évidemment une idée un peu confuse de ce que c'était que le goulag. J'étais déjà allé en Russie, mais j'étais vraiment assez ignorant de toute cette question-là. Et bon, Fabienne, très gentiment, on s'était rencontrés, et elle m'avait dit, mais avant même de voir les photos, tu voulais absolument... Tu voulais publier ce livre avant même que j'ai fait une photo. Et alors, j'étais en panique un peu, parce que je ne savais pas du tout ce que j'allais y trouver. Et je me souviens, parce que ça m'avait quand même drôlement... occuper l'esprit, à la fois c'était pas une commande, mais une attente de ta part, et moi je ne savais pas du tout ce que j'ai trouvé, d'autant que c'est un sujet un peu, bon, je le raconte très brièvement, il s'agissait d'aller dans une île, une presqu'île, enfin une île plutôt, des Solovki, où avait autrefois existé toujours d'ailleurs une forteresse qui avait été... où avaient eu lieu les prémices du goulag, en fait. Et il y avait une énorme bibliothèque qui avait possédé à l'époque quelques 30 000 ouvrages, et on ne savait pas ce qu'était devenu cette bibliothèque. Et donc l'enquête d'Olivier Rollin et de ce petit documentaire de cette équipe, en fait, d'Arte, ils étaient 4-5, il s'agissait donc de rechercher ces ouvrages, qu'étaient devenus tous ces livres dont on n'avait pas trace. Donc moi, j'étais censé illustrer ça. Et donc, évidemment, je n'avais pas grand-chose. Et c'était un bon sujet pour un photographe. Mais comment l'illustrer, etc. Et en fait, on m'avait... Bon, vous regarderez, je ne sais pas si le livre est sur l'état, mais... Ah oui, non. Bref, oui. Non, c'est une longue histoire.
Grave, ça créera encore plus d'envie de le découvrir.
Ah oui, c'est ça. Et du coup, j'avais lu énormément de choses avant de partir, mais pas tellement, en vérité. Et j'avais donc accompagné ce tournage, et j'avais fait des images. Mais très vite, je m'étais détaché, en fait, du tournage. La question précisément, je ne sais pas si j'y réponds vraiment.
Non, sur le dialogue et sur la construction ensuite du texte. Olivier n'avait pas forcément vu les photos quand il a écrit. Et ensuite on avait décidé, parce que c'est toujours quand on assemble ces deux éléments, la question c'est toujours où on met le texte par rapport à l'image. Alors est-ce qu'on le met au départ, est-ce qu'on le met, voilà. Et là on avait choisi finalement de le mais comme on l'a fait aussi dans le livre Détroit, où donc le travail de Sébastien, il avait photographié les quatre Détroits européens. Et Arnaud Bertina, le texte, qui est un texte extrêmement littéraire, est un voyage en accéléré où le personnage, du coup, va passer d'un détroit à l'autre en un temps record. Et on s'était posé la question, et finalement, le texte, ça nous avait paru intéressant, là aussi, de le tresser. Donc, finalement, il y a une page de texte, puis il y a des photos, puis on retrouve... on était même allé dans Détroit, un peu, de manière un peu radicale, jusqu'à... En bas de page, par exemple, c'était pas une phrase terminée, c'était une phrase en cours. Et donc, on a un mot... Et il va va falloir attendre 10 pages après pour avoir la suite du mot. Et peu à peu, ça s'accélérait comme ça, de la même manière que le texte de Bertina s'accélère, où à un moment, on ne sait plus si on est à Calais ou à Tanger. Voilà. Et sur Solovki, c'était pareil.
T'as raison. Au fond, chacun raconte son voyage.
Oui, chacun raconte son voyage. Et ça me paraît plus intéressant qu'un texte de Rollin qui aurait consisté à commenter les photos de Bertini. Enfin,
et justement, à rebours, que ce soit pour vous ou pour vous, Sébastien Saint-Deux, est-ce que, une fois que vous avez le texte entre les mains, est-ce que le texte vous amène, vous, à une autre lecture de votre propre travail ? C'est-à-dire que, est-ce que, lisant le texte, vous découvrez dans votre propre travail photographique des choses que vous n'y avez pas vues ? Alors, je ne sais pas ce qu'un photographe voit dans ses propres photos, ce qui est peut-être le cœur de la question aussi, mais est-ce que justement, vous avez le sentiment que ça crée une logique à votre travail qui n'était pas forcément celle que vous y avez mis, vous ?
À la réponse à la question, je réponds oui. Enfin, c'est même comme ça, voilà, c'est fait, j'ai répondu et du coup je peux ça m'a fait poursuivre le voyage sur un imaginaire que moi je n'avais pas, quoi, à travers les mots. Arnaud a écrit un texte superbe et avec une chute qui pourrait même correspondre quasiment à un travail de d'Arnaud Brignon sur les singes et les rochers et le rocher de Gibraltar. Ça me permet de faire un tout petit écart, vous permettez, pour remercier les photographes, parce qu'à chaque fois, ils ont joué le jeu, notamment Jean-Luc, tu as accepté de nous livrer le travail. Je suis parti un peu à rebours des écrivains, en les montrant peu, mais en servant surtout des paysages du livre. Mais à chaque fois, les photographes qui nous confient leurs travaux ont toujours été extraordinaires. De même que cet objet expérimental qu'est le film photo n'aurait pas pu exister sans l'accompagnement de Mérignac, sans non plus le dispositif de l'été métropolitain, puisque donc le film que vous voyez en fait était en deux parties, parce qu'il a connu deux histoires et il s'est rassemblé, mais il était pensé comme ça au départ. Aussi le travail du montage qui est fondamental. Ça me fait l'occasion d'à nouveau de remercier encore une fois Cyril Latour. Il y aurait plein de gens à remercier parce que c'est un vrai travail d'équipe et surtout sur le dialogue photographique qui, à mon sens, est important.
Je voulais ajouter en t'entendant là sur que c'est pas si fréquent que ça que les photographes acceptent, par exemple dans cette collection collatérale dont on parle, finalement j'ai l'impression qu'elle tente plus des écrivains qui trouvent dans le dialogue avec la photographie un terrain de jeu prospère qui leur permet aussi de prendre des risques parfois qui prendraient peut-être pas sur des romans plus longs parce que ce sont des textes plus courts, et j'ai l'impression que les photographes peinent plus à lâcher leurs photos et à s'aventurer dans ce dialogue. Et c'est vrai que là, on a deux contre-exemples parfaits, mais je pense que ça vient aussi, messieurs, de votre goût pour la littérature par ailleurs. Mais je peux vous assurer, sans faire de statistiques très précises, mais que quand même, souvent, c'est plus dur dans le sens photographe que dans le sens écrivain.
Sinon, j'aurais voulu mettre en parallèle deux travaux. Un que vous avez publié, Fabienne, qui est le tour du monde en 80 portraits d'écrivains, et une activité qui vous prend beaucoup de temps, Jean-Luc Bertini, qui est justement le portrait d'écrivain. Indépendamment du travail spécifique que vous avez fait pour les écrivains américains, vous êtes depuis plusieurs années, je pense, l'un des principaux photographes d'auteurs dans la presse et sur d'autres supports, et on peut trouver que c'est une activité certes intéressante et rémunératrice, mais néanmoins un peu singulière, au sens où à quel point et pourquoi est-ce qu'on a besoin de voir le visage d'un écrivain, à quoi ça sert, est-ce que ça fait lire des livres, est-ce que ça donne envie, est-ce que le visage dit quelque chose du texte, sachant, et on en reviendra un peu après, que vous êtes par ailleurs membre, vous travaillez avec l'une des plus passionnantes revues de littérature depuis une vingtaine d'années qui s'appelle La Femelle du Requin, dans lequel il y a aussi de l'image et surtout de très très longs entretiens avec des écrivains. Mais pour revenir par rapport à ce que vous avez fait, donc Fabienne, avec ce livre et vous dans votre travail, je pense presque quotidien, pourquoi est-ce qu'on photographie des écrivains ?
On a envie de dépasser la... On a envie d'aller voir le père du texte. On a envie de rencontrer celui pour qui on a tant eu de plaisir à passer du temps. Alors, je reconnais que c'est un sentiment sans doute un peu... j'allais dire puéril, peut-être pas, mais en tout cas, c'est sûr que... Bon, il y a un écrivain qui m'a libéré une fois pour toutes de ce problème-là, c'est Georges Perros, que j'adore, et qui a écrit... qui est parti, bon, je raconte de manière assez courte l'histoire, qui est parti dans une tournée, il était comédien, je ne sais pas si vous connaissez Georges Perros, il était comédien... au français, et il est parti en Égypte, il a accepté une tournée en Égypte parce qu'il avait, envie de rencontrer l'écrivain qui avait écrit Les Îles, donc Jean Grenier. Il avait envie de rencontrer le père de ce livre. Et je pense que j'ai eu ce sentiment-là avec quelques écrivains parce que c'est devenu mon métier, mais au départ, ça ne l'était pas. Et au départ, je traînais dans une librairie, notamment à Paris, et j'avais envie de rencontrer ces écrivains que je lisais avec... férocement, avec passion, etc. Et après, doucement, il a fallu trouver un métier. Je n'aurais jamais imaginé, d'ailleurs, je n'étais pas photographe, et je n'imaginais pas que j'allais le devenir. Et j'ai commencé à faire des portraits d'écrivains, tout naturellement, parce que j'en lisais. Et je suis allé, effectivement, vers des écrivains que je lisais. Je n'avais pas de commande, d'ailleurs. Je suis allé chez Bernard Noël et d'autres, etc. Donc, sans commande. Et après, ben, nécessairement, il a fallu travailler. Et donc, je suis allé avec ce qu'on appelle un book chez des... dans la presse, dans les rédactions de photos, montrer mon travail, et j'ai commencé à avoir des commandes. Et voilà. Et tout a... Comme ça, après, du coup, on m'a identifié comme un écrivain... Comme un, pardon. Pas mal. Joli lapsus.
Lapsus parfait. Mal. Merci.
Merci, oui. je m'en rappellerai. Comme un photographe photographiant les écrivains, et la presse est tellement étroite qu'on... Et d'ailleurs, ça m'a arrangé, si je puis dire. Hein. C'est qu'on m'a fait photographier que des écrivains. Mais vraiment, c'était drôle, d'ailleurs, à tel point que 15 ans, une iconographe chevronnée, un jour, m'appelle et me dit... l'anecdote est savoureuse, il faut la raconter. Et me dit, tu photographies toujours des écrivains? Alors que j'avais photographié des tas de gens différents. Et je lui dis, mais qu'est-ce que ça veut dire? Elle me dit, mais tu photographies toujours des écrivains? Je lui dis, mais je ne comprenais pas la question. Enfin, je ne voulais pas la comprendre, sans doute. Et je lui dis, bah oui. Et donc, elle m'envoie photographier un écrivain, une écrivaine, plutôt, qui venait d'écrire son premier roman. Et j'avoue que j'avais été déconcerté par la chose, parce qu'évidemment, c'est ce que je disais tout à l'heure sur Jim Harrison, je prends beaucoup de plaisir à les lire et à les photographier, et certaines rencontres sont parmi les plus belles. Et d'un coup, j'ai un coup d'émotion en disant ça, c'est bizarre. Mais je photographie les gens, j'aime photographier les visages, et donc c'est surtout ça qui m'anime. Mais voilà, effectivement, beaucoup d'écrivains. Voilà.
Fabien, justement, par rapport à ce livre que vous avez édité de ce tour du monde en 80 portraits d'écrivains, est-ce que pour vous, voilà, il faut, du coup, vous prenez les deux exemples possibles, c'est-à-dire que faire tisser le travail de l'écrivain avec le travail du photographe, et cet autre cas qui est le visage de l'écrivain, ou lui de plein pied, qui vient illustrer autre chose qui est non plus un texte, mais finalement son œuvre.
Après, moi, ce qui m'intéresse là, c'est quand il y a une écriture photographique, ouais. Et c'est le cas de Jean-Luc, ce qu'il ne dit pas, c'est qu'il est un excellent portraitiste, alors effectivement, que ça soit d'écrivain ou d'homme politique ou de monsieur tout le monde, voilà, il y a un style Bertini dans le cadrage, dans la captation de la lumière et tout ça. Et donc la seule chose, moi, qui peut m'intéresser, c'est ça, c'est s'il y a écriture photographique ou pas, s'il y a style ou s'il n'y a pas style, et finalement on en vient à la même question que sur de la littérature, quoi. Enfin, c'est là où ça se rejoint. C'est vrai que nous, dans le monde de la photo, cette notion d'écriture photographique, c'est un peu le béaba à l'alphabet, mais il faut toujours insister là-dessus, quoi. Un photographe est un auteur un auteur d'image comme un, voilà, comme un écrivain est un auteur de texte. Et je pense que cette notion-là, elle est fondamentale. Et moi, quand je publie de la littérature et de la photographie, je publie deux auteurs, mais ça ne va pas de soi, parce que par exemple quand on annonce un livre à son diffuseur et que ça part dans toutes les bases de données Electre, etc., on l'annonce donc 6 mois avant, et donc dans les, on se rend compte que dans les classements comme ça des bibliothèques, le photographe, en fait, on remplit pas dans la case auteur, on remplit la case illustrateur. Et donc moi je me bats par exemple avec notre distributeur pour à chaque fois dire non c'est l'auteur, non c'est l'illustrateur, non c'est l'auteur puisque c'est le photographe, et non l'auteur c'est l'auteur du texte, non ce sont deux auteurs, donc voilà. Et ça, ça paraît bête, mais c'est des petits combats qui, je pense, si on les menait, voilà, pourraient permettre aussi de faire évoluer ce champ de l'image, parce qu'on est quand même dans un monde d'images où voilà, ce flux photographique qui nous inonde tous quotidiennement à travers les médias, les réseaux sociaux. Enfin, on va pas partir sur ce, mais enfin, quand même, on vit avec l'image, et en même temps, il y a toujours ce vrai problème à la base d'éducation à l'image, et comme si l'image n'était pas encore reconnue comme un langage à part entière. Or, moi, je pense que la photographie au XXIe siècle, elle a plus grand pouvoir, je suis désolée de le dire, en tout cas, elle a certainement pas le pouvoir de... J'y crois plus trop à la photographie témoignage, preuve, etc., parce qu'on sait tous qu'on peut la falsifier, la galvauder, la manipuler, etc. Par contre, s'il y a un pouvoir que je lui accorde et dont je suis persuadée et qui, moi, me passionne, c'est celui de la narration et du récit. C'est justement de pouvoir raconter une histoire, quoi. Et ce qui m'intéresse dans les livres que je publie, c'est ça, qui est du texte ou pas d'ailleurs, mais c'est de faire récit avec la photographie. Et c'est là où le livre, par rapport à la photographie en exposition, peut aussi jouer son rôle. Enfin, dans une exposition, il y a un récit aussi, mais qui est encore peut-être plus fort dans le livre et dans ce qu'est un livre photo, où finalement, peut-être contrairement, enfin pas contrairement, mais à la différence du livre de texte, l'unité de mesure dans un livre photo, finalement, c'est la double page, quoi. Il y a toujours la page de gauche et la page de droite, et tout va consister à occuper ces deux pages qui peuvent d'ailleurs être occupées en mélangeant texte et photo, mais comment on crée un point de tension, comment on gère le blanc autour de la photo ou pas, enfin voilà, c'est tout ce langage-là qui est à l'œuvre, et ça c'est bien de stimuler les gens aussi sur cette réflexion, parce que je pense que de là part aussi une bonne partie de la manière dont on peut recevoir les images qu'on reçoit donc au quotidien, quoi.
L'idée étant celle aussi d'une forme d'extension du domaine de la littérature, dans la mesure où c'est aussi une façon de faire en sorte que la littérature ne soit pas systématiquement rabattue sur la seule question du roman comme étant un ensemble de signes et de textes de 180 pages bien bouclés qu'on attend en nombreux exemplaires à la rentrée littéraire, mais justement de montrer, et on l'évoquait en préparation de cet entretien, en même temps vous dites bien, et ça rejoint ce paradoxe que vous évoquiez, la difficulté dans le cadre collatéral à faire exister auprès des lecteurs ces livres-là et à faire entendre, les faire entendre pour ce qu'ils sont, puisque oui. D'une façon ils n'attirent personne, dans la mesure où ceux qui veulent un pur livre de photographie trouvent qu'il y a beaucoup de textes, et les amateurs de littérature ont toujours la suspicion de dire, s'il y a des photos, c'est que cela peut être un texte important de l'auteur.
Oui, jusqu'à même la réception des libraires. Une grande libraire parisienne dont je tairai le nom, mais quand même je n'ai jamais oublié, moi aussi je vais y aller de mon anecdote, et heureusement que les libraires sont là, et en plus ils ne sont pas tous les mêmes, la preuve, voilà, ici dans cette maison, il me semble qu'on a compris que ces livres-là un peu atypiques pouvaient exister, mais un jour une libraire, c'était justement sur un des collatérales avec Arnaud Bertina aussi, et me dit, je lui présente le livre L'esprit de la collection, et elle me dit c'est pas un vrai texte d'Arnaud Bertina. Voilà, et il y avait et ça m'avait vraiment choquée. Je lui avais répondu si j'ai voilà, j'ai fait les poubelles sous son immeuble et j'ai ramassé ça, mais ça en dit long quand même, c'est-à-dire que d'un seul coup c'est quasiment pas des vrais livres, quoi, et c'est quand même bizarre cette résistance qui peut encore exister aujourd'hui à ce mélange, mais je pense que ça c'est assez on peut l'étendre aussi, le croisement des disciplines, il y a quand même et c'est partout pareil, oui. Et alors ça évolue peut-être plus dans le spectacle vivant par exemple, voilà, mais dans les livres c'est c'est vrai que ça reste encore... Alors, il y a les romans graphiques qui ont permis quand même aussi de faire évoluer les, de faire évoluer les choses, ouais. Mais qui restent quand même aussi des genres quand même un peu stigmatisés. Or, c'est vrai que c'est exactement ce que vous dites. Ouais, voilà, les gens de la photo trouvent qu'il y a trop de texte. Et voilà. Oh, bon, heureusement, entre les deux, il y a quand même une niche de gens curieux et ouverts qui... après, je conçois que tout ce qu'on dit ce soir ne puisse pas intéresser tout le monde, hein, que ça soit finalement quelque chose, peut-être un champ assez particulier. Mais quand même, pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, quand même, nom d'un chien, voilà, l'image, elle nous entoure, quoi. Donc je trouve qu'à travers ces objets, c'est aussi une manière de mieux l'appréhender, quoi. Voilà.
Et probablement aussi de mieux appréhender la littérature. Je pense que le travail que vous avez fait sur les écrivains américains est aussi un travail d'élucidation de l'œuvre et de la façon de lire le travail de ces écrivains-là. Juste peut-être une dernière question qui peut s'adresser à vous trois et en commençant par Fabienne. Dans le descriptif que vous faites de votre travail, vous évoquez la possibilité d'une écriture d'un texte en opposition à l'image. Qu'est-ce que ce serait un texte qui, au lieu d'accompagner, tisser, évoquer l'image, serait en opposition à l'image? C'est une formule qui m'a frappé.
Oui, qui est peut-être un peu radicale, mais c'est justement qui dirait rien de l'image et qui serait sur. C'est compliqué parce qu'il faudrait que je trouve un exemple qui ne me vient pas, mais qui serait. Qui serait pas du tout généreuse envers l'image, en fait, et qui construirait un discours qui, alors là, pour le coup, cheminerait pas parallèlement, mais cheminerait à l'opposé, quoi. Je pense, dans la collection collatérale, je pourrais en citer un, où on avait publié un texte d'une auteure birmane qui s'appelle Mata Negi, qui travaillait avec Aung San Suu Kyi, donc voilà, et qui raconte une Birmanie du quotidien. Alors, il faut comprendre pourquoi elle avait écrit ce texte, parce que justement, elle le dit elle-même, elle en avait un peu assez du prisme Birmanie, droits de l'homme, etc., qu'elle n'y est pas du tout, en plus en ayant été en ayant accompagné Aung San Suu Kyi, mais qui en même temps, elle voulait montrer aussi que dans le pays, il y avait, voilà, il y avait une vie quotidienne, de l'amour, de la nourriture, de la religion, voilà. Et on avait choisi, pour le coup, mariage presque forcé, on peut le dire, on avait choisi des photos d'un photographe qui s'appelle Tian Doana Champasak, qui lui a beaucoup travaillé sur la nuit, sur la prostitution, sur le travail des enfants, sur le sexe, voilà, de manière assez violente, quoi. Et donc ce livre, qui est vraiment pour le coup un objet étrange, raconte un texte qui est presque un guide touristique. Je suis un peu rude en disant ça, parce qu'on pourrait croire que c'est péjoratif, alors qu'il est vraiment très plaisant et que justement il montre une Birmanie inattendue d'une certaine manière. Et on a le récit photographique qui vient dire complètement, enfin pas le contraire d'ailleurs, mais qui vient dire à l'exact de la vie, c'est qu'en Birmanie, effectivement, on sème, on mange, et on boit, et on prie, et en même temps, on fait travailler les enfants, et comme dans beaucoup de pays, enfin, notamment, il y a un statut assez particulier sur les transgenres là-bas, qui sont à la fois ostracisés, mais en même temps, d'une certaine manière, il a beaucoup travaillé là-dessus, mais en même temps, d'une certaine manière, presque, il porte bonheur, enfin, voilà, il a des travaux anthropologiques là-dessus, et donc, il y avait aussi des photos comme ça, donc voilà, donc ça c'est clairement pour moi en opposition. Ouais.
Écoutez, merci beaucoup pour cet exemple éclairant. Il me reste à vous remercier de vos interventions. Vous avez, si vous voulez à la fois discuter avec les photographes et l'éditrice, vous pouvez continuer à échanger, et puis vous trouverez à l'entrée de la salle, voilà, des exemples justement illustrant ce dont on a parlé ce soir. Merci beaucoup pour vos interventions, et très bonne soirée à vous. Bonne soirée.
Merci.